Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Avec ses corollaires, rassemblements limités, événements d'église suspendus, cette nouvelle période de confinement affecte le bon fonctionnement de ce magazine de reportage. Aussi, en attendant des temps meilleurs, je vous proposerai chaque semaine de redécouvrir, remanier, quelques épisodes de l'émission Mémoire 2 que je produisais il y a déjà quelques années sur cette antenne. Mémoire d'hommes et de femmes qui ont fait un peu ou beaucoup l'histoire de notre région. Ce sera donc immersion dans la mémoire d'un tel ou d'une telle. Et aujourd'hui, avec Jacques André, à Saint-Féréol, ancien conservateur du Musée du Canal, avec les comédiens Patrick Bardet et Maurice Petit, et avec l'ensemble baroque Les Passions, voici immersion dans la mémoire de Pierre-Paul Riquet.
Je crois que je vais fermer les yeux et je voguerai sur le canal comme s'il était achevé. Il ne me faut guère d'imagination pour m'apercevoir là où je ne peux me rendre, puisque j'ai tout conçu. Laissez-moi maintenant ma dernière et longue navigation. Et n'oublie pas, Jean-Mathias, n'oublie pas. Les arbres, sur les rives, les arbres. Et les fleurs. Beaucoup de fleurs, Jean-Mathias, beaucoup de fleurs. Les arbres, les saules, les chênes. Les saules et les fleurs.
Riquet naît en 1669 à Béziers, dans une famille de bourgeois. Son père est notaire, finira sa carrière procureur du roi, mais ils ne sont que bourgeois, ce qui est déjà une bonne place dans la société d'Ancien Régime, mais ce qui va justifier très certainement en fait, l'ensemble de l'œuvre de Riquet. Donc Riquet fera une carrière on va dire normale dans l'administration des gabelles. Il va progresser assez rapidement et au point de devenir donc fermier général des gabelles, ce qui correspondrait aujourd'hui à un trésorier payeur général, donc à l'échelle d'une région. Donc Riquet a amassé une fortune relativement importante, puisque parallèlement à ses fonctions, il était également missionnaire des armées du roi en Cerdagne et en Roussillon. Donc voilà, c'est un homme de finance, c'est un homme riche, et c'est surtout en ce qui nous concerne un ovni. C'est quelqu'un qu'on a du mal à comprendre, parce que pourquoi cet homme qui est donc riche, qui est en fin de vie, hein, il organise son chantier, il l'écrit d'ailleurs à Colbert, « J'organise mon chantier à l'âge où un homme normalement constitué rédige son testament ». Et donc il a 57 ans, l'espérance de vie ne dépasse pas 40 ans, et il va pourtant s'engager dans une aventure qui va à la fois le ruiner, qui aura raison de ses dernières années, alors qu'il aurait pu vivre une vie très confortable, et dont il n'est même pas sûr de voir la réussite de son projet. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un être un peu mystérieux, mais je pense que son origine familiale et sa situation dans la société de l'Ancien Régime justifient effectivement de son projet. Il va, grâce au canal du Midi, trouver le moyen de devenir en fait noble.
Sa famille était d'origine italienne, je crois.
Très certainement, c'est-à-dire qu'effectivement on a des éléments qui nous permettent de penser que vers la fin du Moyen-Âge, cette famille qui s'appellerait donc les Arrighetti ait été contrainte de fuir ou de quitter l'Italie, en fait Florence, la République de Florence, parce qu'effectivement ils auraient participé à un complot, le complot ayant été déjoué, donc ils ont été exilés. Ils arrivent en Provence sous le nom d'Arrighetti et progressivement ils vont glisser sur le Languedoc. Donc Arrighetti, ils deviennent au fil du temps des Riquetti et ils se fixent du côté de Béziers en Languedoc et deviennent les Riquets.
Et il achète des offices, donc il rentre dans la noblesse de robe et je crois qu'il devient baron de Bon Repos.
Bien plus tard, effectivement. Mais la véritable noblesse sera acquise suite à l'érection du canal du Midi en fief. Hein. C'est l'édit de construction du canal de 1666 qui permettra à Riquet de devenir noble parce qu'il devient seigneur du canal du Midi.
Donc vous nous dites qu'il fait une belle carrière, donc il amasse une belle fortune. Que sait-on à ce moment-là de sa personnalité ? Quel homme est-il ?
Alors Riquet est un homme extrêmement pragmatique. Il a cette idée donc, de garantir l'avenir de sa famille, donc ça passe nécessairement par ce titre de noblesse. C'est un homme, je l'ai dit tout à l'heure, de finance. Il n'y connaît absolument rien tout ce qui est hydraulique. Hein. C'est une petite passion, si vous voulez, mais il n'a aucune connaissance théorique, donc il va être obligé de s'adjoindre les compétences d'un ingénieur qui s'appelle André aussi. On pourrait peut-être l'appeler aussi, le qualifier d'opportuniste. Il arrive au bon moment, au bon endroit. Son père a voté contre un projet de canal du Midi. Il sait qu'effectivement, ça correspond à une attente particulière du roi de France qui veut structurer tout le royaume, et notamment toute la partie sud du royaume. Et donc, il sent là l'opportunité, la possibilité de travailler sur un sujet qui devrait lui permettre d'atteindre son objectif. Il est courtisan. Il va être obligé seul de conduire un projet qui est colossal. Et donc, il va falloir, pendant les 14 années de la construction du canal, essayer de s'adjoindre les faveurs à la fois des États du Languedoc, qui paieront quand même 8 millions de livres, et bien entendu de Colbert et du roi, qui paieront 6 millions de livres.
Oui, parce qu'au départ, Colbert était plutôt réticent.
Alors, il accueille favorablement le projet, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, il va avoir un certain nombre de doutes sur la personnalité de Riquet. C'est un projet qui est relativement long à l'échelle d'un homme à cette époque-là. 14 ans sur une espérance de vie de 40 ans, ça représente énormément de temps. Et donc, il va, à un moment, douter de la personnalité de Riquet, à tel point que lorsqu'il devra creuser le tunnel de Malpass, Colbert demande effectivement à Riquet de stopper les travaux.
Et Riquet, lui, ne doute jamais de l'avenir de son projet ?
Il est persuadé qu'il réussira, il a raison, puisque effectivement l'histoire lui donnera raison. Il a cette certitude, des visionnaires, hein, qui effectivement, contre vents et marées, vont lui permettre d'aller jusqu'à la fin de son projet, donc d'aboutir à la construction du canal.
De bon repos. Le 26 novembre de l'an 1662. Monseigneur, je vous écris de ce village sur le sujet d'un canal qui pourrait se faire dans cette province de Languedoc pour la communication des deux mers. Vous vous étonnerez que je vous entreprenne de parler d'une chose qu'apparemment je ne connais pas, et qu'un homme de Gabelle se mêle de nivelage. Mais vous excuserez mon entreprise lorsque vous saurez que c'est de l'ordre de Monseigneur de Toulouse que je vous écris. Le dit Seigneur Archevêque m'a chargé de vous envoyer mon mémoire. Ainsi, ce que j'entreprends, c'est pour obéir, et non de mon propre mouvement.
Pendant que Riquet peaufinait son projet, Colbert reconstruisait l'économie de la France. Et cette fortune retrouvée du royaume permettait à Louis XIV de bâtir à Versailles le plus magnifique château de son temps. Au mois de janvier de 1663, le roi ordonne par édit de faire vérifier la faisabilité du canal de jonction des deux mers. Colbert peut alors convoquer Riquet et entamer une négociation.
Couvrez-vous, Riquet. Si je vous ai prié en ce château de Saint-Germain, c'est pour m'entretenir avec vous en toute franchise. Comme vous ne l'ignorez pas, j'ai su convaincre notre grand roi de toute la pertinence de votre projet. Laissez-la, je vous parle. Comme vous n'êtes pas sans savoir, j'encourage nos serviteurs dévoués à user de leur fortune pour créer dans toutes nos provinces de nouvelles industries. Aussi, votre projet fait-il l'objet de toute ma bienveillance, car il peut hautement contribuer à ce dessein.
Ah, Monseigneur...
Laissez-moi en venir au but, Riquet. Votre mémoire, vous le savez, va faire l'objet des vérifications qui s'imposent. Et vous recevrez bientôt à Toulouse, et surtout le tracé de votre projet, la visite des commissaires enquêteurs accompagnés des meilleurs géomètres et niveleurs.
Je leur ferai le meilleur accueil, Monseigneur.
Je sais cela, je n'en doute pas. Mais il ne s'agit pas seulement en cette affaire de l'art de conduire les eaux.
Je comprends. Ainsi que je vous l'ai écrit, je sais ce que coûtera cet ouvrage. Aussi, je suis prêt à garantir sur ma fortune une part de ces travaux.
J'entends bien, Riquet. Mais que demandez-vous en contrepartie de cette entreprise ?
Pour moi, rien, Monseigneur. Tout comme vous, je suis fils de bourgeois versé dans les finances de nos États. Nos efforts sont tendus à établir nos enfants dans les plus hautes charges. Mais tout comme vous, Nous sommes dédiés avant tout à la gloire du roi et à la puissance du royaume dont nous ne sommes que d'humbles serviteurs.
Monsieur de Riquet, nous nous sommes compris. Prenez le temps de perfectionner notre grand projet. Si la commission confirme, comme je veux le croire, vos calculs, je ferai établir un devis et vous y répondrez comme entrepreneur de ce canal royal.
Mais ce projet n'était pas un projet totalement novateur dans l'idée, dans le concept.
Pas du tout. L'idée même de canal est une idée qui est récurrente. Alors, on a des certitudes depuis François Ier, 1525, mais il est fort probable que les Romains et plus tard Charlemagne aient effectivement essayé de trouver une solution sur un problème qui était irrésolu, c'est-à-dire effectivement la continuité territoriale de la façade maritime. À l'époque, si vous vouliez passer d'Atlantique en Méditerranée ou en sens inverse, il vous fallait contourner toute la péninsule ibérique. Ce qui prenait énormément de temps, à peu près un mois et demi, si tout se passait bien. C'était dangereux, on avait des remontées de barbaresques, donc des pirates sur les côtes africaines. Et puis, c'était aussi relativement onéreux. Hein, vous aviez un péage au niveau de Gibraltar qui était relativement important. Et la volonté du roi de France, c'est de s'exonérer un peu de tout ça et de créer une circulation au milieu des terres, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'entre-deux-mers. La Garonne existant et étant navigable à peu près la moitié de l'année, il était relativement facile de passer de l'Atlantique jusqu'à Toulouse. La difficulté, c'était le tronçon Toulouse-la Méditerranée. Et il se trouve qu'à cet endroit-là, donc, on a un élément particulier qui s'appelle le seuil de Naurouze, qui était jusque-là infranchissable. On n'avait pas trouvé de solution pour alimenter le canal, un éventuel canal, à cet endroit-là. Donc effectivement, l'idée existe depuis très longtemps, mais on bute sur une difficulté technique, c'est comment alimenter le seuil de Naurouze en eau. Et les différents ingénieurs qui se sont succédés, qui avaient été mandatés par les souverains depuis François Ier, ont tous buté sur cette difficulté. Ils essayaient de trouver une solution sur les Pyrénées. Ils voulaient détourner les cours d'eau, que ce soit l'Aude, que ce soit l'Erse, que ce soit l'Ariège, la Garonne. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas, pour des raisons en fait, de nivellement, détourner et amener de l'eau jusqu'à Naurouze. Et c'est Riquet qui, lui, va réfléchir différemment et trouver la solution non pas sur les Pyrénées, mais sur le Massif central, à travers son dernier rebond, qu'est la Montagne Noire.
Au tout début de l'histoire, les sources, celles de la Montagne Noire, les belles sources, les généreux ruisseaux qui dévalent de là-bas et sans lesquels, ma foi, il n'y aurait point de canal. Voici donc. En 1618, au Conseil des Trente, à Béziers, ma ville natale, où enfant je résidais alors avec mes parents, mon père, riche notable de la ville.
Une idée lumineuse et le canal se construit, le canal avance. En mai 1668, la première partie est mise à eau. De grandes fêtes sont organisées à Toulouse pour fêter l'événement. Chacun veut voir si la tranchée béante qui fendait le Languedoc de part en part pouvait conduire à la Garonne, donc vers la mer Océane, des eaux qui depuis toujours allaient se perdre en Méditerranée. Et ils accourent, ils se massent, jeunes et vieux, au bord de ce lit mal fini, le regard tendu vers l'amont. Ils viennent de partout, de Naurouze et de Villefranche de l'Auragais. Ceux d'Aigues Vives mêlés à ceux de Bazièges et de Ticaille, puis ceux de Montgiscard, de Castanet-Tolosan et ceux de Toulouse. Ils attendent, groupés par village, par quartier, derrière leur curé qui se dispose à bénir l'Auneuve, source de vie, selon les mots de Jeanne Hugon de Sceaux dans son livre « Le chemin qui marche ». En 1669, près de 9000 ouvriers sont occupés sur le canal et Pierre-Paul Riquet se révèle être un meneur d'hommes incomparable.
Il a une grosse difficulté, il faut qu'il réalise le canal du Midi dans des temps très 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 courts, dans des délais très courts, tout simplement parce qu'effectivement la mort le talonne. Et donc il va falloir pour ça organiser des chantiers de façon quasi militaire. Il va organiser des brigades de manière à ce qu'on perde le moins de temps possible et qu'on ait la meilleure réactivité. Et il va amasser sur ces chantiers un nombre très important d'ouvriers. Il aura jusqu'à 12 000 ouvriers à l'instant T sur ces différents chantiers. Donc ce qui représente quand même quelques centaines de milliers de personnes au total sur les 14 années de chantier. Il organise également des dispositifs qui permettent de pallier aux insuffisances techniques de l'époque. Comment, à l'époque, un homme qui se trouve du côté de Toulouse, dans son château de Bon Repos, va-t-il pouvoir donner des ordres et transmettre en fait ces ordres sur des chantiers comme ceux de Sète, par exemple, qui représentent quand même 3 jours de cheval. 3 jours aller, 3 jours retour pour la réponse. Ça fait à peu près une semaine de délai, de battement entre une demande et une réponse. Donc il va falloir organiser le chantier, organiser l'intendance de manière à perdre le moins de temps possible pour justement essayer de boucler la réalisation du chantier dans les meilleurs délais.
Et il prend soin de ses ouvriers, c'est une chose presque impensable au XVIIe siècle.
Alors il est clair qu'aujourd'hui, on reste songeur par rapport à l'œuvre entre guillemets sociale, hein, ce qu'on pourrait parler de social de Riquet, dans la mesure où, alors là on va relativiser un petit peu, mais en tout cas sur le réseau d'alimentation, il va mettre en place un dispositif très intéressant, très avantageux pour les ouvriers. Il faut les attirer sur le chantier. Il faut les attirer, il faut en plus qu'ils soient extrêmement rentables et efficaces. Donc on va bien les traiter. Et notamment, donc, on leur paye, on ne les paye non plus à la journée, on les paye à la mensualité sur le mois. On les paye très bien, on les paye à peu près le double de ce qu'on payait un ouvrier sur un chantier classique. On va organiser un embryon de sécurité sociale. On leur donne des outils. On les loge moyennant des conditions extrêmement intéressantes. Voilà, donc on crée un environnement très propice à l'attractivité en fait, des ouvriers sur les chantiers de Riquet.
Embaucher. Avis à la population. Toute personne travaillant pour M. Riquet aura les jours de maladie payés, les jours de pluie payés, les samedis, les dimanches. De plus, un tourniquet sera installé et chaque panier de terre sera compté. Un panier, un jeton. Un jeton, une prime.
C'est une véritable petite révolution pour l'époque. Tout le monde veut travailler sur le canal. On vient de partout en Europe. C'est le chantier le plus important, mais ce n'est pas le chantier le plus cher. Les cauchemars de M. Colbert, c'est Versailles, car Versailles coûte cher. Le roi se répand en faste.
Des travaux qui sont propices au brassage de population, au maillage de territoire.
Ben, voilà, à travers son outil, Riquet va créer un lien entre les territoires. Hein. C'est quand même la première fois qu'on crée un outil de circulation efficace depuis les Romains. On s'appuie au Moyen-Âge, même jusqu'à l'époque romaine, sur un réseau qui est extrêmement difficile. Ce sont les anciennes voies Aquitania et Via Domitia qui sont dans des états, on va dire, très très douteux. Et grâce au canal du Midi, Riquet va pouvoir organiser une continuité territoriale. On va passer sans difficulté de Bordeaux à Sète grâce à un outil qui est performant, efficace, qui est policé. Donc ça, c'est très important aussi à l'époque puisque on risque quand même à tout moment le brigandage sur les anciennes routes. Et là, donc, on garantit quasiment une heure de départ et une heure d'arrivée pour des gens qui jusque-là n'avaient aucune conscience, aucune considération du temps.
Jacques-André nous parle là de la barque de poste.
Voilà, c'était le bateau donc, qui permettait de transporter les passagers, qui s'appelait donc la barque de poste, qui a été mis en place dès 1673 et qui donc disparaîtra en très très peu de temps en 1858 suite au rachat du canal du Midi par la compagnie des chemins de fer du Midi, qui en fait trouve le moyen, en supprimant la barque de poste, ou en tout cas en organisant une concurrence, on va dire presque déloyale, de récupérer tout le trafic, enfin tous les passagers, tous les voyageurs sur la ligne de chemin de fer.
Alors il s'agissait là, je crois, d'une véritable flotte.
Oui, oui, on a eu jusqu'à 30 et un peu plus, donc une trentaine de bateaux qui circulaient sur le canal du Midi. Dans la première partie du dispositif, en fait, on faisait que certains tronçons du canal. Hein. Et puis, quand on va mettre en place le système accéléré dès 1828, les bateaux partent de Toulouse et vont jusqu'à Sète.
Et à bord, comment s'organiser la vie? Vous nous dites qu'il fallait environ 3 jours, peut-être un tout petit peu plus, pour relier Toulouse à Sète. Mais à bord, donc, la vie, comment s'organisait-elle? Qui s'y trouvait? Qui prenait ces coches d'eau?
Tout le Languedoc s'est retrouvé sur la barque de poste. Les religieux, les nobles, les hommes de loi, les paysans, tout le monde circulait sur le canal du Midi. C'était le seul outil donc, qui permettait un voyage dans des conditions à peu près confortable, dans des délais records. Hein. On partait notamment de Toulouse le matin et on s'arrêtait donc le midi dans une dînée, la dînée de Desgras, et ensuite on repartait et on s'arrêtait à nouveau le soir dans une couchée. Donc la journée était rythmée en 2 étapes et effectivement on faisait la totalité du trajet en 3 jours et demi. Donc ça vous permettait de concevoir un voyage de Toulouse à Sète en 3 jours et demi, mais de Bordeaux à 7 à peu près en une dizaine de jours.
Donc là également encore brassage de population, brassage de denrées aussi bien sûr. Et puis également c'était certainement aussi un moyen de véhiculer des idées nouvelles.
On est dans un espace confiné assez restreint, on se trouve à une quarantaine de personnes effectivement, sur 3 jours et demi, pour certains un peu moins, mais donc effectivement c'est un lieu qui est propice aux échanges, à la discussion, des fois à la chamaillerie aussi, puisqu'on a des procès-verbaux qui témoignent de certaines altercations, mais voilà, c'est un endroit où effectivement la vie politique va être débattue, on va organiser la réflexion, et je pense qu'effectivement c'est un des véhicules de la diffusion des idées, notamment pré-révolutionnaires, au XVIIIe siècle.
Ce jour-là, Jacques-André m'accueillit à Saint-Ferréol, dans ce musée du Canal du Midi, un lieu qui nous conte avant tout l'histoire d'un homme et de l'œuvre de sa vie.
Alors effectivement, ce n'est pas tout à fait un musée, puisque nous ne sommes pas contrôlés, nous n'avons pas de collection. Nous souhaitons avant tout raconter une histoire. L'histoire donc d'un homme qui malheureusement a été oublié par l'histoire et qui a pourtant vécu et organisé une aventure à la fois technique et humaine assez extraordinaire.
Et ce musée, parce que nous allons l'appeler musée parce que c'est peut-être le plus facile et puis c'est son nom comme vous nous le dites, ce musée donc se trouve dans une très très belle demeure qui est juste derrière nous et on pourrait presque encore entendre la voix de Riquet dans cette demeure.
Presque, parce qu'effectivement le bâtiment n'est que du XVIIIe siècle, mais il est fort probable que sous le bâtiment, il y a encore les traces donc, du bâtiment du XVIIe siècle qui devait abriter Riquet quand il venait donc contrôler et organiser le chantier de Saint-Ferréol qui a commencé en 1667 et qui s'achèvera en 1672. Donc pendant 5 ans, il a marqué Saint-Ferréol de sa présence pour suivre le chantier.
Alors pourquoi ce musée et puis ce jardin du canal ici à Saint-Ferréol plutôt qu'à Béziers peut-être, ville de natale de Riquet ou à Sète ou au seuil de Naurouze?
L'objectif, en tout cas il y avait plusieurs objectifs, c'était bien entendu, c'est une initiative locale, hein, c'est dans un premier temps la communauté de communes qui souhaitait effectivement dans son schéma de développement touristique organiser un lieu de mémoire et de valorisation. Et je pense que le choix était judicieux parce que ça permettait aussi de mettre l'accent sur les sources du canal du Midi, qui sont un petit peu la partie la moins connue, du canal du Midi, et pourtant la partie la plus indispensable. Pas de réseau d'alimentation, pas de canal du Midi. Et Saint-Ferréol est la pièce maîtresse de ce réseau d'alimentation. Alors, le musée est organisé autour de 6 salles, hein, qui permettent à la fois une progression thématique et chronologique, puisque on commence avec les explications de l'idée de Riquet, pourquoi effectivement et comment cet homme va avoir l'idée et de créer le canal. Et puis, on va progressivement, comme ça, avancer. Il a l'idée, il négocie l'idée avec le roi, avec le pouvoir royal en tout cas. Le roi lui donne l'autorisation, donc c'est l'objet d'une 3e salle où on explique un petit peu l'organisation du chantier. Et puis après, on va découvrir le canal, puisqu'il est construit, évidemment, il faut le visiter. Donc vous avez une salle de spectacle où, à travers un film de 20 minutes, vous allez pouvoir comme ça vous balader, comme si vous étiez sur un bateau, à travers le Languedoc, et découvrir les principaux ouvrages. Et enfin, donc, juste avant la salle d'exposition temporaire, on vous présente l'organisation, le fonctionnement du canal du Midi, comment tout ça a vécu à travers le temps, quels étaient les différents acteurs, les bateliers, les éclusiers, les petits métiers, les lavandières, choses comme ça. Et puis aussi, tout ce qui est lié à proprement parler à la navigation. Qu'est-ce qu'on transportait, quel type de marchandises, en quelle quantité, comment tout ça s'est organisé, quel type de bateau.
Ruiné, Pierre-Paul Riquet meurt à Toulouse le 1er octobre 1680, peu avant l'achèvement des travaux. Mais l'histoire rendra justice à ce visionnaire et bâtisseur. Le canal du Midi est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.